Nouvelle qui est sortie au cours des derniers jours, évidemment, c'est qu'on est en train, évidemment, de faire une maquette du centre-ville de Montréal. Il y aurait deux maquettes qui existeraient, un sans stade de baseball et un autre avec stade de baseball. Parallèlement à ça, le propriétaire des Rays a mentionné que la gare partagée avec Montréal était la seule option pour que les Rays, pour garder les Rays vivants. On en parle avec Frédéric Deck. Salut, Fred!
Hey, bonjour Danny.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Fred. D'abord, je voudrais.
Ça fait longtemps, oui.
Ouais, Fred, ben on se parle en dehors des ondes parce qu'on est des chums, là, mais en ondes, je veux dire. Mais Fred, moi, là, je te l'ai dit, j'étais un grand partisan. Ben écoute, le baseball, c'est comme moi. Là, on est tous les deux des fans de baseball, des expos et ainsi de suite. Mais moi, là, j'ai désenchanté pas mal à ce projet-là quand les Rays sont. On a commencé à parler de la gare partagée. Ça semble de plus en plus idéal. On parle plus du tout d'expansion pour Montréal. Donc moi j'ai décroché pas mal de ça. Sauf que encore aujourd'hui, avec la pandémie, avec le COVID et ainsi de suite, ben le propriétaire qui a mentionné que c'était la seule façon de garder Montréal, garder les Rays vivants, une garde partagée. Comment tu vois ça?
Ben, écoute, il y a plusieurs aspects dans ce que tu viens de parler là. Le premier, la garde partagée, c'est le projet qui est sur la table présentement. Je pense que du côté des deux organisations, des propriétaires des Rays et du groupe de Montréal, c'est le projet qui est sur la table. Moi, je demeure convaincu que c'est un projet d'entrée de jeu présentement, puis qu'à long terme, ça peut pas être ça la visée du groupe de Montréal. Mais qu'on s'est fait dire, pour l'instant, c'est ça la possibilité. Soit vous embarquez dans le train maintenant, soit vous attendez une expansion qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Ça, c'est l'année passée, OK? Là, maintenant, le baseball majeur a perdu de très importantes sommes. Il y a plusieurs chiffres qui circulent. Là, j'ai lu, moi, des chiffres entre 3 et 8 milliards de pertes pour la saison 2020. Là, ces pertes-là, peut-être que les propriétaires des 30 équipes présentement vont être tentés de proposer au commissaire Manfred d'aller de l'avant plus rapidement avec son projet d'expansion en 32 équipes. Parce que si, on a entendu plusieurs chiffres, on a entendu 1,5, 2 milliards de dollars pour une expansion au baseball majeur. La dernière équipe au hockey a coûté 700 millions US, si je me trompe pas, le Kraken de Seattle. Le baseball est plus en santé que le hockey. Alors, ils ont un meilleur contrat de télé, ils ont de plus gros revenus, etc. Fait qu'on peut penser qu'une franchise, ça vaut plus. Est-ce que ça vaut le double? Je ne le sais pas. Mettons-la à 1,5 milliard juste pour jaser. Deux franchises, tu arrives à 3 milliards d'argent neuf qui rentrent. Est-ce que si là, on a entendu de 3, moi j'ai entendu, j'ai lu de 3 à 8,2 milliards de pertes l'année passée pour le baseball
Ah,
majeur. Mais mettons que c'est 5, puis que tu en récupères 3 tout de suite d'un coup comme ça avec une expansion. Là, c'est plus la même game. Et puis le commissaire Manfred, rappelle-toi quand il a annoncé que le comité exécutif du baseball avait autorisé les Rays à explorer le projet de Ville-Sœur. Le commissaire Manfred avait dit, nous croyons toujours que Montréal pourrait être un marché à part entière pour une équipe à temps plein. Je pense pas que son opinion de Montréal ait changé. Alors, et puis moi, je suis de ceux qui ne croient pas que les entreprises de Steven Bronfman, de Stéphane Crécy qui est à la tête de Garda World, d'Alain Bouchard qui est à la tête de Couche-Tard, d'Éric Boyko qui est à la tête de Stingray. Moi, je pense pas que ces gars-là ont moins d'argent aujourd'hui qu'ils en avaient au
Non,
début de la
c'est pas eux
pandémie.
autres, c'est pas eux autres, c'est pas eux autres, c'est les petits, les petites PME, les restaurateurs et ainsi de suite, c'est eux autres qui sont affectés.
Alors, bon, je comprends, il y a plusieurs personnes, des grands fans de baseball, qui sont pas entichés de ce projet de Ville-Sœur. Écoutez, moi, je pense que d'ici à ce que le projet se réalise, il y a bien des choses qui peuvent changer. Là, c'est le premier jet du projet dont on est au courant. Et puis là, par la suite, ben, moi, je pense que ça va être modifié, ou en tout cas, je suis pas certain que c'est le projet final dont on est au courant présentement. Puis là, ben, tu parlais des maquettes, des esquisses qui ont été présentées cette semaine. Ben ça, c'est Devimco, qui est le développeur immobilier, qui possède plusieurs terrains au Bassin Peel, et qui veut s'associer avec Claridge, donc l'espèce de compagnie d'investissement qui appartient à la famille Bronfman et dont Pierre Boivin est le président, pour acheter les autres terrains puis développer le quartier. Évidemment, l'objectif premier de Claridge et de Steven Bronfman, c'est de pouvoir y insérer un stade de baseball. dans les esquisses qui nous ont été présentées lundi, deux esquisses différentes, il n'y en a pas de stade de baseball. On a posé la question à Serge Goulet, qui est le président du Devinco, puis lui nous a dit, ben moi, je suis pas un... Je suis pas impliqué dans le projet du retour du baseball à Montréal. C'est le projet de Steven Francis et Pierre Boivin. Moi, je suis un promoteur immobilier. Présentement, mon partner financier, Claridge, qui voudrait mettre un stade de baseball là, il m'a pas dit, ben mettons un stade de baseball. Ils ont pas les autorisations. Le projet est toujours en cours de se concrétiser, si on veut. Eux autres, ils vont avoir des discussions au cours des prochains mois. La pandémie a ralenti l'allure du projet. Alors moi, je veux... tu sais, le but de Devimco cette semaine, c'était pas de dire qu'il n'y aura pas de stade de baseball ici, c'était de mettre de la pression sur la mairesse de Montréal pour qu'elle débloque le développement du quartier plus rapidement.
Ouais, okay.
Alors eux autres, ils ont présenté leur vision du quartier qui, pour l'instant, n'a pas de stade de baseball. Mais jamais Serge Goulet a dit « il n'est pas question qu'il y ait de stade de baseball dans mon quartier ». Il est encore très ouvert à ça.
OK. Donc, c'est un petit peu une balloune dans le fond de la
société. Ben, ouais. C'est pas une balloune parce que le groupe de Montréal est muet depuis la sortie, la publication du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal qui était pas très reluisant pour ce que Steven Bronfman avait présenté. On avait dit que son projet était un peu brouillon, que ça manquait de concret, qu'on aurait besoin de présenter un projet mieux ficelé pour qu'on puisse vraiment apprécier ou non ce que lui a envie de faire avec ce projet de stade. Et puis là, on était allé d'une déclaration très laconique en disant qu'on apprécie le travail de l'Office de consultation publique, puis qu'on va faire nos devoirs, puis qu'on va représenter un projet, etc. Depuis ce temps-là, là, on commente absolument rien. Et j'ai essayé par les voies officielles, par les voies non officielles, de passer par des gens, par la bande qui sont proches du groupe, et on veut rien dire.
Okay.
Alors, ce que cette semaine, c'est sûr que ça a soulevé des questions, puis ça a entraîné des inquiétudes pour ceux qui travaillent comme moi, comme Jérémy Filosa, comme Alexandre Pratt à la presse, qui travaillent sur le projet du retour du baseball, puis qui suivent ça de près. Parce que là, t'as le principal partner de Steven Bronfman au niveau du financement et du développement immobilier qui dit, ben moi, on m'a pas demandé d'en mettre un stade. C'est certain que ça soulève des questions. Et à ce compte-là, moi, je trouve que, puis là, ça, c'est l'ancien gars de relations publiques en moi qui parle. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, le groupe de Montréal a pas fait une bonne job cette semaine pour atténuer, justement, ces rumeurs-là, ils auraient dû peut-être, même si c'est par un communiqué puis c'est rien qu'un paragraphe, ils auraient dû sortir puis dire ce que Devimco a présenté ce matin, c'est pas un désaveu du projet, ça veut pas dire que le projet de retour du baseball est à terre. En tout cas, mais ça c'est mon opinion personnelle. Cela dit, les assurances, si on peut dire, les réassurances, si on peut dire, ils sont venus de Tampa, comme elles le sont depuis un an dans ce dossier-là. L'été dernier, c'est Sternberg qui a rappelé que le projet était toujours sur les rails puis que ça allait bon train. Et c'est ce qu'il a fait mardi parce que ce qui est sorti lundi, là, trompez-vous pas, nous, à la presse canadienne, le texte a été traduit, il a été publié d'un océan à l'autre au Canada. Il y a des médias américains qui sont tombés là-dessus puis qui l'ont pris puis qui ont noté qu'il n'y avait pas de stade de baseball. Alors, le journaliste Mark Tompkins du Tampa Bay Times, qui est comme le gars de Pete, là, celui qui suit principalement les Rays pour ce journal-là. Ben lui, il y avait une entrevue de prévue avec Stuart Sternberg pour parler de la dernière saison. Il faut pas oublier que l'équipe s'est rendue en série mondiale, là, c'est quand même pas rien. Et puis là, lui, il peut pas. Il a fait sa job, il peut pas arriver là et dire ben là, qu'est-ce qui se passe avec ton projet? Ton partenaire à Montréal, il n'y a pas de dessin de stade dans son projet de développement. Et puis c'est là que Sternberg arrive puis il met les pendules à l'heure en disant que pour lui, le projet de Ville-Sœur, pour mardi, là, évidemment au moment où il se parlait, c'est l'unique option pour lui. Et il va plus loin encore, il dit qu'il est très satisfait des progrès qui ont été faits, autant par son organisation que par le groupe de Steven Bronfman à Montréal. Au niveau, je vais retrouver la déclaration, alors, il dit qu'ils ont fait des projets énormes au cours des derniers mois à Montréal, spécifiquement au sujet des plans de stade et du plan d'affaires. Fait que là, non seulement je suis très encouragé, mais encore, je suis plus que satisfait de la façon dont le dossier progresse.
Ouais.
Là, écoute bien, je comprends que là, on peut être on peut être de mauvaise foi puis dire que c'est une opération de relations publiques, mais il aurait pu aussi faire comme Steven Brunson à Montréal puis dire j'ai pas envie de commenter le dossier des Villesseurs.
Ben, c'est sûr.
Mais il est allé très longuement dans les détails avec le journaliste du Tampa Bay Times.
Fred, deux choses que je veux t'emmener. Pour l'expansion, moi, je pense, es-tu d'accord avec moi que ça va être une dans l'Ouest, une dans l'Est, à peu près? C'est pas mal sûr.
C'est ce qui fait du sens.
Donc,
c'est ce qui fait le plus
Las
de sens.
Vegas, normalement, c'est très. Las Vegas, on ne sait plus. La COVID a tellement changé de choses. C'est une ville qui est 100% fun, hein, qui est 100% que c'est touristique et ainsi de suite. Mais avant la COVID, mettons avant le COVID, Las Vegas aurait été favori dans l'Ouest. Je pense que.
Ben, il y a Portland en Oregon. Oui, Portland aussi. Qui est quand même assez avancé.
Ouais.
Ceux qui n'ont pas reçu l'appui des paliers de gouvernement là-bas encore.
C'est un
groupe qui comprend notamment Russell Wilson, le corps arrière des Seahawks de Seattle. Je pense pas que ce serait lui l'actionnaire prioritaire, mais je veux dire, je pense qu'il sert de porte-parole ou de visage de cette organisation-là. C'est vrai qu'il y avait quand même un projet là, qui était avancé. Écoute, je le connais pas par cœur, leur projet, mais tu sais, eux autres, il y avait déjà une maquette, là, une esquisse du quartier. Puis, ça ressemblait un peu, je te dirais, à ce que Oakland a présenté dans les derniers mois, dernières années. Tu sais, on avait une image du stade, puis le quartier, on savait où exactement on voulait l'implanter. Mais là, ça bloque. Ils n'ont pas l'appui des paliers de gouvernement. Mais quand même, c'est un groupe qui est avancé. Alors, excuse-moi, je t'ai interrompu pour l'Ouest.
Je voulais dire, une ville qui me fait peur dans l'Est, parce que c'est sûr qu'ils sont beaucoup moins avancés que Montréal, mais c'est Nashville.
Ben Nashville, là. Hier, les équipes du baseball majeur ont ouvert les portes à leur filiale.
Il faut dire que c'est les assises.
Oui, c'est les assises d'hiver virtuelles présentement.
Alors
hier, chaque équipe a lancé des invitations à 4 organisations des ligues mineures pour devenir leur club école, parce que là, le baseball majeur a retiré 25% des clubs écoles. Là, ça va passer de 160 à 120. Et puis Nashville a été invité pour être le club école 3A. Puis là, je veux t'en parler, puis le nom de l'équipe m'échappe. Là, je sais pas si c'est Houston ou Tampa Bay, là, justement, mais en tout cas, peu importe, là. Alors, eux autres, ils vont avoir un club 3A. Eux autres, ils ont un groupe aussi qui est assez
avancé. Très solide.
Oui, puis ils ont embauché, il y a quelques mois, David Dombrowski, l'ancien directeur général des Expos, notamment, et des Marlins, pour être un peu leur président, là, leur chef de file de leur candidature. Alors, quand t'embauches un gars comme Dombrowski, qui aurait pu encore se chercher un job comme président des opérations baseball dans le baseball majeur, certainement, premièrement, ça coûte cher. Ça veut dire que tu as les reins solides comme organisation.
Oh.
Et deuxièmement, ça veut dire que tu as très bon espoir de mener à terme ton dossier, parce que là, tu vas pas chercher une figure connue reconnue et respectée comme ça, au salaire qu'il doit commander, si tu penses pas avoir une chance solide de ramasser une équipe dans une éventuelle expansion. Alors là, Nashville, c'est mieux que est-ce que Nashville, et là je te fais des scénarios là, qui n'ont jamais été évoqués, mais on parle là. Tu sais, t'aimes pas dans un scénario où Montréal se retrouve avec une équipe d'expansion. Si pour Sternberg, le marché de Tampa Saint-Pétersbourg est mort, est-ce que lui de déménager le club à Nashville, c'est une option? Tu sais, je sais pas, là. Je veux dire, puis ça serait pas la première fois que le baseball majeur sort un épouvantail d'une ville pour forcer une équipe à se négocier un nouveau stade puis tout ça, là. Mais alors, puis écoute, moi j'aimerais ça que le baseball revienne à Montréal, là, comme partisan et comme journaliste professionnel.
Mais
tu sais, on est en droit de se poser, est-ce que Montréal, présentement, c'est pas un épouvantail pour que Tampa obtienne ce qu'ils veulent des autorités en Floride? Tu sais, ça fait partie de l'équation, ça aussi. Là. Malheureusement, le baseball majeur nous a habitués à ce genre de manœuvre-là dans le passé.
Regarde, donc, c'est un dossier qu'on va suivre. Puis, Fred, j'écoutais Passion LMB. Les jeunes, les kids sont bons. Les jeunes sont très, très bons là, dans leur émission. Puis, ils disaient, puis on en a parlé
en dehors des ondes. Ça s'appelle pas Passion, pour vrai.
On en a parlé en dehors des ondes, puis... puis on va l'emmener en onde, ce que je te dis là, Fred. On a vu que les Blue Jays, les gens qui se rappellent de Porto Rico ont vu que c'était pas l'idéal. C'était vraiment pas l'idéal. C'était juste à court terme. Et on a vu encore cette année que Buffalo, c'était pas l'idéal pour les Jays. Donc, Il faut, en 2021, d'ailleurs, le commissaire l'a mentionné lui-même, qu'il espère voir les Jays à Toronto. Donc, tu vois, là,
Donc
donc.
ça, c'est pas fait, là. C'est pas fait encore, là, parce que
Ouais.
la saison de baseball, ça
Mais non,
commence
mais
à fin mars.
non. Mais non.
Tu sais, même si tu fais commencer les Blue Jays sa route pendant 2 semaines, à un moment donné, il faut qu'ils reviennent chez eux. Puis là, si chez eux, ça peut pas être au Canada.
Ouais.
Et puis, les Jays ont invité les Bisons de Buffalo à demeurer leur équipe 3
Exactement.
hier, justement, dans l'opération de réorganisation du baseball
Ouais.
mineur dans les dernières semaines. Alors, eux autres, ils comptent toujours sur Buffalo pour développer leurs espoirs. Mais
Ouais.
là, si tu es obligé de partager ton stade, écoute, il faut que tu rentres une saison de 3A puis une saison du
Ah
baseball
non.
majeur dans le même stade. Là, c'est plus la même game, pas en
Ah non,
tout,
non,
là.
non, non. Donc c'est un dossier qu'on va. On a vu que c'est pas fait. Hey Fred, je veux t'emmener, puisque je te n'ai pas parlé en dehors des ondes, je te l'ai pas demandé, mais tu l'as commenté très largement sur Twitter, donc tu es très à l'aise d'en parler. Le dossier de l'impact. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une balloune lancée par l'impact? Je peux pas croire, moi, que. Encore une fois, on en a parlé en dehors des ondes, on va l'emmener en ondes. Je peux pas croire, moi, que. Voyons donc. Que l'impact changerait de nom. Tu sais, c'est renier son histoire. L'impact, ça a une histoire. Le mot impact, ça a une histoire. Et ils ont gagné 2 championnats NSL. L'un des plus grands joueurs de l'histoire du soccer a joué pour l'impact. Je peux pas croire, moi, qu'on irait changer de nom. C'est-tu une balloune ou c'est tout simplement.
Moi, mon opinion là-dessus, c'est que
Ouais.
je trouve pas que c'est une bonne idée de changer de
Pas à
nom.
tout.
Et je pense que la discussion autour du Montréal FC, moi, je pense que c'est une fuite orchestrée par le club pour voir la réaction des gens. Moi, je pense que ils ont lancé un ballon sonde, là. Ils ont lancé une sonde pour voir la réaction des gens. Moi, là, personnellement, là, j'aimerais voir l'impact mettre cet argent-là qu'ils vont mettre sur un rebranding parce que c'est pas gratuit quand tu changes
Non,
d'image de marque comme ça. J'aimerais mieux voir l'impact mettre ça sur le produit, sur le terrain, que dans les bureaux.
non. Ouais.
Mais, tu sais, moi, je trouve pas que c'est une bonne idée. Moi, je trouve que Montréal FC, c'est laid comme nom. Ça ressemble au nom de 700 autres équipes sur la
Ouais,
planète,
exactement,
dont à peu près
exactement.
la moitié de la MLS.
Exactement.
Tu sais, puis juste, restons juste au Canada. Déjà, tu as le même commanditaire principal que le Toronto FC, puis on sait que les couleurs diffèrent au soccer, au football, mais en même temps, ce qui est le plus gros sur le chandail, c'est le logo du commanditaire principal. Si en plus tu deviens si en plus d'avoir le même commanditaire que le TFC, tu deviens le MFC, moi je trouve que tu te rapproches trop de ton équipe la plus proche dans le circuit, là.
Étais-tu
En
d'accord
tout
avec moi,
cas,
Fred, que
moi
c'est renier
je
son
trouve
histoire un
ça
peu, changer de nom,
absolument.
c'est renier son histoire, puis
Absolument.
l'impact
C'est
a une
de
histoire.
renier. Mais en même temps, l'impact a une histoire, mais tu sais, quand ils sont arrivés en MLS, là, ils avaient retiré le numéro 12 en disant que c'était les partisans, le 12e joueur, puis que le numéro 12 était retiré. Et puis là, soudainement, ils sont allés chercher Kiza, là, j'oublie son prénom, puis lui, il porte le 12 sur le terrain. Fait que là, tu sais, c'est un peu. L'impact, là, je trouve que parfois, a le don de se tirer dans le pied lui-même. C'est malheureux parce que c'est une équipe, là. Moi, je trouve que c'est une équipe importante dans le paysage sportif montréalais, québécois. C'est une équipe qui est dans la plus grosse ligue de football en Amérique. Et puis, une des ligues qui attire de plus en plus dans le monde. Alors, tu sais, je trouve ça vraiment dommage qu'au lieu de. Ça fait pas parler en positif de l'impact, ce débat-là.
Non, non.
Je trouve ça vraiment dommage à ce niveau-là.
Non, non, je trouve ça vraiment. Je trouve ça très, très dommage. Je ne sais pas ce que ça en est rendu. Je pense que heureusement, les réactions sont mauvaises. Donc, on va peut-être faire reculer un petit peu ce dossier-là. Puis c'était juste de la frime. Ça ressemble à un ballon lancé par l'impact pour voir la réaction du monde. En tout
Ben,
cas.
en tout cas, au final, ça reste leur décision. Moi, je trouve que. Moi, je trouve pas que c'est une bonne idée. Je pense que plusieurs partisans de la première heure de l'Impact, là, avant la MLS, se sont cloués de ça
Ben,
aussi.
c'est sûr, c'est sûr. Et point que ça, Fred, tu as parlé tantôt d'investir. Toi, tu es sûr que tu es à Montréal. Donc, tu peux pas savoir tout. Mais en région, là, dans le 418, on sent CHIRST de l'impact. Tu comprends?
Ils ont de la misère à percer le marché en dehors de Montréal, de ce que je comprends, oui.
Oui. Donc, moi, je me rappelle des expos. On a pas mal la même âge. Ils sont allés à Chibougamau. Donc, c'est pour te donner une idée, là. Puis l'impact dans Montréal, on n'a pas de culture soccer. Il me semble que c'est à développer, puis c'est le job de faire ça. C'est le job de faire ça, puis on n'a pas de culture. On l'a encore vu, il y a 2-3 semaines, que Maradona est mort. Ça aurait été c'était un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire du soccer, dans l'histoire du soccer tout court, puis ça n'a pas été spiné comme il faut. Puis ça prouve qu'on n'a pas de culture de soccer, puis ça a l'impact à faire ça. Puis c'est rapproché des régions. Puis ça, ils le font pas. C'est juste. Faites gros merci, on va s'en reparler dans le temps des fêtes. Je vais te demander ta rétrospective de l'année. C'est sûr que c'est une rétrospective un peu bizarre cette année.
Oui, c'est pas la même chose que les autres.
C'est pas du
années,
tout la même chose.
Il y en a une à faire quand même.
Il y en a une à faire pareil. Hey, vite de même. Pas drôle à dire, hein, Fred. Trois des grosses nouvelles dans le monde du sport qui m'ont marqué, c'est des dessins. Deux de trois, c'est des dessins. La mort de Kobe, c'est sûr que t'es pas un amateur de basket, donc tu peux pas. Et la mort de Maradona, c'est quand même une grosse nouvelle, là.
Oui, c'est une très grosse nouvelle. Puis sans être un amateur de basket, on peut pas nier que Kobe, c'était une légende de son sport, là. Ça a été, pour une génération, ça a été, il a été très marquant, puis on l'a vu là, dans les réactions à la suite de son décès. C'est vrai que 2020, écoute,
Moi, la
c'est
grosse
pas,
nouvelle en c'est sport, pas... là, c'est Tom Brady qui quitte les Pats. C'est quand même pas rien.
Non, c'est majeur, ça aussi également.
Vite demain.
Écoute, j'essaie de voir là, une grosse nouvelle sportive là, cette année. Bon,
à part le COVID,
si on regarde ça. Hein. Au Québec, t'as quand même Laurent Duvernay-Tardif qui commence l'année en gagnant le Super Bowl avec les Chiefs.
Oui.
Alfonso Davies, qui est en train de s'établir comme une vedette du football dans la Bundesliga en Allemagne, c'est pas rien.
Ouais.
Alors, c'est quand même, c'est intéressant.
Mais Tom Brady, si on y va, sport, là, le plus grand carrière de l'histoire qui change l'équipe, je pense que c'est la grosse nouvelle. Si on passe sport, là. Juste sport, là. Pas de COVID, on oublie COVID,
c'est effectivement une très grosse nouvelle.
Ouais. Fred, on s'en reparle dans ton effet.
Hey, avec plaisir, Danny. Frédéric.